VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du lundi 31 juillet 2017 en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, la Lucha a appelé à des manifestations aujourd'hui à travers le pays.
Élections législatives hier au Congo-Brazzaville et au Sénégal.
La ministre française des Armées, Florence Parly, est au Tchad. Première étape d'une tournée en Afrique.
En Somalie, deux attaques séparées des Chebabs ont fait une trentaine de morts hier.
Le personnel diplomatique des États-Unis en Russie devra être réduit de 755 personnes, décide le président Vladimir Poutine en représailles aux sanctions américaines.
Au Venezuela, 10 morts dans des accrochages qui ont marqué hier l'élection d'une constituante voulue par le président Nicolas Maduro. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, manifestation de la Lucha ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Précision de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'objectif de cette marche, selon le communiqué de la Lucha, est d'exiger à la Commission électorale nationale indépendante, je cite, « la publication immédiate du calendrier électoral clair tenant compte de l'échéance non négociable de décembre 2017 pour la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales selon l'accord de la CENCO et de protester contre la dépréciation du franc congolais et contre l'insécurité au Kivu, au Kasaï et à Kinshasa. » Fin de citation. Le choix de la date du 31 juillet 2017 se justifie selon la Lucha sur le fait que c'est à cette date que la CENI s'était engagée à boucler les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs afin de rendre disponible un fichier électoral révisé et complet. Mais le retard pris par les opérations en cours suite notamment à l'insécurité dans l'espace Kasaï n'a pas permis à la CENI, selon son porte-parole, de tenir ce délai. Cependant, l'organisation de cette manifestation de la Lucha risque d'être butée à l'interdiction par l'hôtel de ville de Kinshasa des manifestations publiques à caractère politique qui sévit dans la capitale de la RDC depuis plusieurs mois. Le ministre porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa s'est d'ailleurs refusé à tout commentaire sur la question. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, près d'un an et demi après sa propre réélection contestée, devrait de nouveau disposer d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on prédit après le second tour des élections législatives d'hier, marqué par quelques incidents et le report du scrutin dans 9 circonscriptions de la région du Poul. Les résultats du second tour ne seront connus que dans quelques jours. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition avec Ngwela Ngusu.
Les Sénégalais se sont rendus aux urnes hier pour élire leurs députés. Le scrutin est perçu comme un test des forces politiques au Sénégal à 18 mois de la présidentielle. La consultation a été perturbée par les soupçons de l'opposition envers le chef de l'État, Macky Sall, les problèmes d'organisation et les fortes pluies saisonnières qui ont retardé le dépouillement. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le vote devait se dérouler de 8h à 18h GMT, mais à Touba, dans le centre du pays, où les retards dus aux violents orages et à l'absence des bulletins de certaines listes ont été particulièrement longs, le gouverneur a repoussé à minuit la fermeture des bureaux. Dans la plupart des autres régions, les bureaux ont commencé à fermer à partir de l'horaire prévu. La participation est en hausse par rapport à 2012, année où les législatives avaient eu lieu dans la foulée de la présidentielle, remportée par Macky Sall face à son prédécesseur Abdoulaye Wade. La télévision publique RTS, citant des sources officielles, a fait état dans la soirée d'une estimation de près de 54% de participation. Un enjeu de cette dernière consultation avant l'élection présidentielle de 2019 est de mesurer les forces du camp de Macky Sall, l'actuel chef de l'État. L'opposition entendait lui imposer une cohabitation, mais n'a pas réussi à s'entendre sur une liste commune entre l'ex-président Wade, chef du Parti démocratique sénégalais PDS, 91 ans, et le maire de Dakar, Khalifa Sall. En détention préventive pour détournement de fonds présumés depuis le mois de mars, ce dernier a dû faire campagne de sa cellule.
En seconde partie de cette édition, nous reviendrons sur ces élections avec Seydina Abagay, notre correspondant sur place.
La ministre française des Armées, Florence Parly, a commencé dimanche une tournée africaine au Tchad. Elle a assuré les militaires français engagés dans l'opération anti-djihadiste Barkhane qu'ils auront les moyens nécessaires à l'exécution de leur mission. La France a poussé à la création d'une force militaire conjointe des pays du G5 Sahel, Mauritanie, Tchad, Mali, Niger et Burkina Faso. Madame Parly doit s'entretenir lundi avec le président Idriss Déby Itno, puis au Niger avec le président Mahamadou Issoufou et au Mali avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, selon un communiqué du ministère français.
Dimanche sanglant en Somalie, où deux attaques séparées ont fait une trentaine de morts. Précision de Timothée Donangmaï.
L'attaque la plus meurtrière a eu lieu dans la région du Bachabel où au moins 18 soldats de la force africaine, la MISOM, ont été tués dans une embuscade tendue par les islamistes de Boko Haram à 120 km au sud de Mogadiscio. Un porte-parole de la force africaine a confirmé au service somali de la VOA que l'attaque visait un convoi de soldats ougandais de la MISOM. Il a rejeté le bilan avancé par Al-Shabaab selon lequel 39 soldats auraient été tués. Un attentat à la voiture piégée a tué 10 personnes et blessé 15 autres à Mogadiscio. L'explosion a eu lieu sur la principale artère de la capitale somalienne alors que le véhicule piégé était pris dans un bouchon créé par d'intenses contrôles sécuritaires. La plupart des victimes sortaient d'un supermarché proche des lieux. La destination du kamikaze était probablement le Parlement où les législateurs somaliens étaient réunis pour débattre des questions constitutionnelles, a expliqué un responsable de la sécurité s'exprimant sous anonymat.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le personnel diplomatique des États-Unis en Russie devra être réduit de 755 personnes. C'est ce qu'a annoncé hier le président russe Vladimir Poutine. Après l'adoption cette semaine ou la semaine dernière de nouvelles sanctions par Washington contre Moscou à cause de l'ingérence russe dans la présidence américaine, dans la présidentielle américaine de 2016. C'est un acte regrettable et injustifié, a rétorqué le département d'État américain hier dans un communiqué. Nous évaluons l'impact d'une telle limitation et la manière dont nous allons y répondre.
Le président Donald Trump a entamé une série de consultations diplomatiques urgentes avec le Japon et la Corée du Sud après le dernier tir de missiles balistiques intercontinentaux par la Corée du Nord. Monsieur Trump a eu un entretien téléphonique d'une heure lundi matin, heure de Tokyo, avec le premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a par la suite dit à la presse qu'il y a un accord total sur la nécessité de prendre d'autres mesures. Selon des officiels américains, le président Trump tentait aussi de joindre son homologue sud-coréen Moon Jae-in, actuellement en vacances. Shinzo Abe a dit que le Japon et les États-Unis vont promouvoir, je cite, « une action concrète pour renforcer les systèmes de défense et assurer la sécurité de leur peuple face à la menace nord-coréenne ». Pyongyang a dit que son dernier test de missile IBM vendredi visait à lancer une mise en garde sévère aux États-Unis et à leurs alliés.
Au Venezuela, 10 morts, barricades, gaz lacrymogène hier, le pays a connu une nouvelle vague de violence. Cette violence a entaché l'élection d'une assemblée constituante voulue par le président Nicolas Maduro et qui, selon ses opposants, vise à renforcer les pouvoirs de ce dernier et à le maintenir en place. L'opposition a appelé à de nouvelles marches dès lundi.
Les autorités qataries ont accusé hier Riyad, en crise ouverte avec Doha, de mêler politique et religion et de mettre en péril le grand pèlerinage des Qataris à la Mecque en refusant de garantir leur sécurité. L'Arabie saoudite a imposé des sanctions au Qatar, dont la fermeture de son espace aérien. Elle a rompu le 5 juin, en même temps que les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte, avec l'Émirat, accusés de soutenir des groupes extrémistes et de se rapprocher de l'Iran chiite, le grand rival du royaume sunnite. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco.
En RDC, le secteur des assurances est en pleine libéralisation et l'opération devrait prendre fin cette année. L'autorité congolaise de régulation des assurances dit avoir reçu des requêtes d'au moins 15 compagnies. Le gouvernement ouvrira une procédure de soumission en août et devrait attribuer les licences en 2018. La RDC espère créer un marché annuel de $500 millions dans le secteur des assurances. La Banque mondiale révèle dans une nouvelle étude que la qualité de la gouvernance en Afrique subsaharienne a connu un recul dans plus de 15 pays en 2016. Ce recul a été noté dans les domaines de la gestion économique, des politiques structurelles, des politiques d'insertion sociale et d'équité. Selon la Banque mondiale, cette contre-performance s'explique en partie par la chute des prix des matières premières. Certains pays africains ont renforcé la qualité de leur gouvernance et de leurs institutions. C'est le cas du Rwanda qui arrive en première position, suivi du Sénégal et du Kenya. Au Maroc, le Crédit Agricole va lancer une filiale spécialisée dans la finance islamique. Agdar Bank devrait ouvrir en octobre avec une vingtaine d'agences. Le budget initial de plus de 20 millions de dollars pourrait doubler dès la première année. Pour réaliser ce projet, le Crédit Agricole marocain s'est associé à l'ICD, une institution islamique pour le développement du secteur privé qui détiendra 49% d'Agdar Bank.
À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Fin des huitièmes jeux de la francophonie hier à Abidjan et la Côte d'Ivoire aurait pu conclure cette compétition en beauté.
Effectivement Idrissa, ces jeux se sont clôturés par le tournoi de football et les Ivoiriens ont perdu en finale devant le Maroc, vainqueur au tir au but 7-6, 1-1 après les 90 minutes de jeu. Pour la petite finale, c'est le Mali qui finit troisième grâce à son succès de 2-1 face à la RD Congo.
En lutte traditionnelle, notons la belle performance du Sénégal.
Oui, ce pays où cette discipline est très populaire a remporté les tournois par équipe, tant au niveau des hommes qu'au niveau des femmes. Très performant aussi dans le combat individuel avec plusieurs médailles d'or, notamment Mohamed Sen qui est sorti vainqueur dans la catégorie des plus de 100 kilos face au star nigérien Kaka Yahia.
Le Sénégal a récolté également une médaille en basketball.
Une médaille de bronze pour être précis, grâce à son succès 54-50 face à la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'équipe belge. La médaille d'or revient elle à l'équipe de France, victorieuse du Canada-Québec en finale 73-53. Ces Jeux, qui ont duré plus d'une semaine, ont vu la France arriver en tête au classement général des médailles, devant justement le Canada-Québec. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, finit au sixième rang.
Football et en Afrique du Sud, deux supporters sont décédés dans le derby de Soweto.
Oui, le derby de Soweto endeuillé avant le match amical qui opposait les Kaizer Chiefs et les Orlando Pirates. Deux personnes ont en effet perdu la vie en raison d'une bousculade devant une porte qui donnait accès au FNB Stadium, l'enceinte qui avait accueilli la finale du Mondial 2010. Plusieurs blessés sont également à déplorer. Le match a tout de même eu lieu et les Kaizer Chiefs l'ont emporté 1-0. Précisons que ces deux grands rivaux de Johannesburg préparent la prochaine saison qui démarre en août.
En Égypte, Augusto Ignacio quitte le Zamalek.
L'entraîneur portugais a été remercié par le Zamalek après moins de 4 mois passés à la tête du club. Ignacio était en danger depuis que les Chevaliers Blancs du Caire avaient été éliminés de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Il sera resté à peine 4 mois sur le banc du géant Keirote.
Du rugby pour clore cette page des sports avec le sacre continental de la Namibie.
Oui, la Namibie, vainqueur de l'Africa Gold Cup, c'est la première division de la Coupe d'Afrique. 5 victoires en 5 matchs pour les Namibiens et la dernière c'était hier face au Kenya, succès 45-7. Un peu plus bas dans le classement, la Tunisie a remporté son premier succès dans cette édition de 2017. Une victoire 31-23 au Zimbabwe, ce qui pouvait permettre aux Tunisiens de rester en première division.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des parasitoses intestinales et du déparasitage.
La consommation d'aliments sales ou mal cuits et des os souillés cause de nombreuses maladies en Afrique. Ces maladies, ce sont les parasitoses intestinales. Pour nettoyer son organisme, les spécialistes recommandent de déparasiter périodiquement l'organisme.
Pour en parler, nous recevrons le professeur Christian Zeton. Il est hépato-gastro-entérologue à Douala au Cameroun. Il nous dira ce qu'il faut faire pour prévenir et combattre ces parasitoses.
Depuis Bamako au Mali, nous écouterons le professeur Abdoulaye Dabo. Il est parasitologue. Il nous expliquera pourquoi les parasitoses sont un problème de santé publique.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, les électeurs se sont rendus aux urnes hier pour choisir leurs députés. Ces législatives ont été marquées par plusieurs dysfonctionnements et quelques incidents majeurs à travers le pays. Malgré un taux de participation de plus de 50%, ce sont les couacs qui ont le plus retenu l'attention. Et l'opposition blâme le pouvoir, nous dit de Dakar notre correspondant Seydina Abagué.
Dans la banlieue de Dakar, la tête de liste départementale de la coalition Manko Taxaw Sénégal accuse le gouvernement de manque de transparence.
Je suis stupéfait de participer aux élections les plus mal organisées de l'histoire politique de notre pays. À titre d'exemple, vous voyez ici à l'école 16 où je vote, jusqu'au moment où je vous parle, la coalition Manko Taxaw Sénégal n'a aucun représentant dans les bureaux de vote. Du fait de l'incurie de la préfecture de Guédiouaï, qui a délibérément omis nos représentants dans l'arrêté ainsi signé pour nous permettre de gérer ces élections conformément à la loi. Mais cela prouve encore une fois l'incompétence du gouvernement.
Pour le ministre Mansour Faye, le scrutin est une réussite, malgré plusieurs couacs notés.
Ce matin, c'est vrai, à l'ouverture, il y avait quelques difficultés, puisque pour les 47 listes arrangées, les représentants dans les bureaux, les bureaux, effectivement, tous ces personnes-là, avaient des difficultés pour disposer des bulletins. Mais une fois ce problème réglé, effectivement, le vote a bien démarré avec une participation massive des populations, ce qui augure en tout cas d'un taux de participation qui va dépasser donc les taux habituels que nous avons vécu lors des élections législatives précédentes. Aujourd'hui, en tout cas, tout se passe bien. Il n'y a rien à signaler, aucun incident, à part le retard d'une heure par rapport au démarrage.
Des propos totalement réfutés par les membres de la coalition de l'ancien président Abdoulaye Wade. Pour eux, la coalition au pouvoir a tout fait pour falsifier les élections. Mamadou Lamine Diallo va jusqu'à les accuser d'achat de conscience.
Je trouve ça inacceptable. Un pays comme le Sénégal qui a l'habitude de voter, vous arrivez le matin, il n'y a pas de président de bureau de vote. À l'école Rudy, c'est la même chose. À Djepel également, ils ont dû ouvrir vers 11h. Les populations ont dû défoncer la porte pour pouvoir rentrer. Hein. Vous allez souvent et le matériel électoral n'est pas là. Les bulletins de Watou Sénégal ne sont pas disponibles. À Darou Mousti, centre Adjamé en Côte d'Ivoire. Vous allez chercher des documents administratifs chez les sous-préfets à Guédiawaye, ils ne sont pas là. Alors que les gens de la PR se promènent avec ça. À Sédiou, par exemple, ils viennent, hein, ils ont 2000 francs là qu'ils donnent aux gens et ils les accompagnent pour aller voter. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Donc vraiment, c'est inacceptable.
Dans la ville de Touba, le vote a été prolongé jusqu'à minuit, après le saccage de près d'une centaine de bureaux de vote par des personnes supposées proches de la coalition de l'ancien président Abdoulaye Wade. D'ailleurs, les têtes de liste départementales de cette coalition ont été arrêtées par la police. Concernant ces législatives, les premiers résultats donnent pour le moment un trio gagnant composé de la coalition au pouvoir, suivi par les coalitions d'Abdoulaye Wade et du maire de Dakar, Khalifa Sall.
Seydina Abagué, à Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
On a également voté hier au Congo-Brazzaville où se tenait le second tour des législatives. Plusieurs violences ont été enregistrées dans la capitale pendant le vote et les populations ont dénoncé le vote des militaires, nous dit de Brazzaville notre correspondant Ngwela Ngoussou.
La tension est restée palpable sur l'ensemble des bureaux de vote, notamment à Brazzaville. Les premiers votants ont tranquillement exprimé leur choix, bien que parfois avec des regrets.
Les gens sont en train de voter, si ton nom figure sur la liste électorale, tu vas, tu votes. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens s'agitent.
Je suis venu voter parce que c'est un devoir. Sinon, que s'il le fallait, je ne venais pas. Parce que les choses ne marchent pas. Il fallait mettre des surveillants général comme nous à l'Assemblée. C'est-à-dire, pendant qu'ils siègent, il y a des gens comme nous dans le coin, celui qui dort, on compte sur sa tête et puis je crois que ça passe. Pour qu'ils suivent bien ce qui se passe.
Mais c'est quelques temps après que la tension est montée d'un cran, comme ici à l'école de Diata, à Makélékélé.
Ça, c'est l'intimidation. On a l'intimidation. La police fait la même chose. Les gens des bureaux de vote font la même chose. Mais c'est vraiment aberrant. Non, la tension ici, c'est que c'est les mêmes bureaux de vote qui sont passés, c'est les mêmes d'hier qui sont revenus et qui sont dans les bureaux de vote et qui font voter. Oui, ça me dérange parce que c'est les mêmes. On avait arrêté des gens ici en flagrant délit au premier tour, oui,
et les mêmes gens sont dans les bureaux de vote.
Ou bien à Mungali, au CG Machua.
Lui, il est sur les listes là, c'est lui qui il est assesseur, c'est lui qui accompagne l'électeur, c'est pas ça. C'est aux deux délégués d'écouter ce que l'électeur veut.
Dans plusieurs bureaux de vote, à Mungali, à Wenze et à Potopoto, les populations ont dénoncé le vote massif des militaires transportés par bus.
Ils sont venus agresser des gens, ils ont tapé des gens, ils étaient armés aussi. Il y a eu, non, le vin, comment on appelle ça, le credo, il y a eu 7 BJ, de l'autre là, des bérets rouges. 7 BJ et 3 coissières en tenue, qui sont venus voter, ils sont pas du quartier.
Des incidents ont d'ailleurs éclaté à Wenze et à Potopoto, où des coups de feu ont été tirés et le vote sérieusement perturbé. Un candidat indépendant, Marien Ikama, a même annoncé dans la foulée le retrait de sa candidature.
Bah, je me dis pas définitivement si on va faire des recours, si je pense que la commission électorale est sérieuse.
Contacté, le président de la commission électorale, Henri Bouka, a reconnu ces incidents et indiqué que tout était rentré dans l'ordre avant même la fin des opérations électorales. Ce deuxième tour concernait 47 circonscriptions sur 151 sièges que va compter l'Assemblée nationale. Les résultats pourraient être annoncés mercredi prochain. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Élection toujours, ambiance délétère au sein d'Elections Cameroun, l'organisation en charge d'organiser les différents scrutins dans ce pays. Malgré la présence du Premier ministre camerounais le 26 juillet dernier lors de la cérémonie de prestation de serment des 3 nouveaux membres du Conseil électoral, le directeur général des élections a brillé par son absence. Pour les observateurs, cette absence traduit la résurgence du conflit entre la Direction générale des élections et le Conseil électoral, ce qui inquiète la société civile et l'opposition camerounaise. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap fait le point.
L'opposition camerounaise s'indigne des crises de leadership à répétition au sein de Election Cameroun, surtout en cette année préélectorale. Sosthène Médard Lipote, conseiller politique et communication du président du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.
Au lieu que l'ELECAM nous parle en ce moment des 4 ou 5 élections qui auront lieu en 2018, l'arbitre des élections lui-même se trouve englué dans des conflits de verticalité, parce que chez eux là-bas, il n'y a pas de relation horizontale. C'est moi le chef, pas toi. Nous pensons au niveau du MRC que l'absence de monsieur le directeur général de l'ELECAM n'est que la partie visible de l'iceberg.
Même son de cloche au sein de la société civile camerounaise qui s'inquiète du climat délétère au sein de l'organe en charge d'arbitrer le processus électoral au Cameroun. Docteur Hilaire Kamga, secrétaire permanent et porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie.
Les élections ayant pour mission la pacification des rapports sociaux et étant adossées sur un cadre légal accepté par les uns et les autres, même si le cadre légal camerounais fait encore l'objet de critiques, mais celui qui est en vigueur ne semble même pas être une préoccupation pour ceux justement qui en ont charge de mettre en œuvre ce code électoral, c'est-à-dire Election Cameroun au travers de son leadership.
Au siège de Election Cameroun, l'on rassure que la maison ne traverse aucune tempête. Il n'y a pas de tension à ELECAM, souligne un membre de la cellule de communication de la structure, qui précise par ailleurs que le directeur général n'était pas tenu d'assister à cet événement du Conseil électoral, fut-il en présence du Premier ministre. Mais pour la société civile, le mal est déjà profond et est même parvenu à impacter le niveau d'inscription sur les listes électorales. Docteur Hilaire Kamga.
L'ECAM n'est pas capable d'organiser les élections si on s'en tient essentiellement à son leadership actuel. Au lieu des 7 500 000 d'inscrits pour les élections 2013, on nous annonce aujourd'hui que rendu au 14 juillet, nous ne sommes que 6 millions et poussière sur les listes électorales, sans qu'on ait parlé de toilettage quelconque.
Depuis sa création, Election Cameroun a déjà connu 2 présidents du Conseil électoral et 2 directeurs généraux des élections. Les rapports entre ces 2 principaux responsables de l'institution ont toujours été houleux. Ils ont nécessité l'arbitrage du président Paul Biya. Outré par cette situation délétère en 2015, le représentant de l'Église catholique avait claqué la porte de ELECAM sans crier gare. Emmanuel Jolmtap, Yaoundé, VOA Afrique.
Les parlementaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad ont affirmé vouloir limiter à 3 le nombre d'enfants par femme afin de faire baisser de moitié d'ici à 20 000 à 2030 le taux de fécondité le plus élevé du monde. Au Bénin, nombreux sont ceux qui n'accueillent pas favorablement cette proposition, estimant qu'elle ne tient pas compte des réalités sociologiques de l'Afrique. De Cotonou, notre correspondante dans la capitale économique du Bénin, Ginette Fleur Adandé.
Propulser le développement des pays du bloc CEDEAO en maîtrisant la démographie qui semble échapper à tout contrôle. Telle est la prouesse que voudrait réaliser la CEDEAO qui compte sur les parlementaires de l'espace pour le vote d'ici quelques années d'une loi capable d'obliger la femme à 3 enfants au maximum. Il ne fallait pas plus pour réveiller la colère des féministes qui estiment que penser comme telle est un manque de respect aux droits et libertés de la femme acquis à bout de longues luttes et de sacrifices inestimables. Marielle Degboué est la présidente régionale du réseau ouest africain des jeunes femmes leaders qui s'étend dans tous les pays de l'espace CEDEAO.
La démographie en soi n'est pas le nœud, mais la mauvaise répartition des ressources au sein de nos populations. Pour réaliser pleinement le dividende démographique en Afrique d'ici 2050, vous avez choisi la voie la plus facile. Planifier une naissance, c'est avoir des grossesses désirées. C'est faire le nombre d'enfants dont on est en mesure de prendre soin jusqu'à l'âge de maturité. Mais planifier, c'est aussi proposer à l'homme de faire de la vasectomie. Les femmes n'en seraient que contraintes et votre politique de réduction de la natalité passerait mieux.
Mais il n'y a pas que les féministes pour balayer d'un revers de main cette proposition qui, selon certains, vient renforcer la thèse selon laquelle les dirigeants africains manquent de stratégie et de volonté politique pour pousser l'Afrique au développement. Bertin Corvi est un ancien candidat au présidentiel passé.
Est-ce que quand on devient parlementaire, on perd la raison? Pourquoi veulent-ils forcément copier l'idée des autres? La pauvreté africaine n'est pas dans le nombre d'enfants que chaque Africain fait, c'est dans l'incapacité des parlementaires à prendre des décisions justement qui imposent des paradigmes économiques dignes de ce nom.
Moussa Kani est le président de l'Association des élévateurs pour le conseil au développement. Il est malien et est venu assister au Bénin à un forum de la CEDEAO. Pour lui, l'obstacle au développement de l'Afrique n'est pas démographique, mais stratégique.
S'il y a une croissance démographique très galopante et que vous n'avez pas une bonne politique pour mieux gérer cette pression démographique, ça peut créer des problèmes. Nous avons des bons objectifs dans le cadre du développement de nos pays. Mais malheureusement, on n'a pas de bonnes stratégies. C'est ça le problème de l'Afrique. Tant que vous ne cherchez pas à connaître les problèmes, tu ne peux pas avoir la solution.
La jeunesse représente les 2/3 de la population africaine. Selon Yannick, il est jeune et pense qu'au lieu de vouloir réduire la population, les dirigeants feraient mieux de mettre un point d'honneur sur l'instruction et l'éducation, deux facteurs majeurs de développement.
Pour booster le développement de l'Afrique, ce n'est pas de freiner le nombre de personnes à naître. C'est plutôt la question d'éducation. Il faut que nous, Africains, nous revoyons notre éducation. Il faut que nos universités soient bien équipées, que les formations professionnelles techniques soient bien faites et que les filières créées dans les universités, dans les écoles, soient orientées directement à nos besoins. La solution, ce n'est pas de limiter le nombre d'enfants. La solution, c'est de bien formater l'homme.
Le débat reste donc ouvert et beaucoup promettent de combattre ce projet si le fond et la forme ne sont pas revus. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou de RM Show sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique comme d'habitude. Et notre sujet de cette semaine, ah oui, vous attendez ce sujet. On dit que l'amour n'a point d'âge, qu'en pensez-vous? Envoyez-nous vos réactions sur SMS ou WhatsApp au 001 703 350 37 31 ou contactez-moi sur ma page Facebook, c'est Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, appelez-nous aussi au 001 202 619 31 40 RM Show. C'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.